Le journal de la culture, Matteo Carantin.
Bonjour Matteo.
Bonjour Benoît.
Au menu de votre journal de la musique de chambre, une importante nomination, la clôture du Festival d'Avignon et Disney qui signe avec Avengers Endgame le film le plus rentable de tous les temps.
L'annonce a été soigneusement préparée pour le Comic-Con de samedi. Avengers Endgame, conclusion provisoire aux 21 films précédents de l'univers Marvel, a engrangé 2,78 milliards de dollars, dépassant d'une courte tête Avatar de James Cameron.
Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière.
Quel qu'en soit le prix.
Quel qu'en soit le prix.
Quel qu'en soit le prix, et Disney remporte beaucoup de prix puisque depuis janvier, 4 des 10 films les plus lucratifs du box-office international entrent dans les caisses de Disney avec Spider-Man, Toy Story 4, Stubber et Aladdin. Et l'année est loin d'être finie puisque le lancement réussi du Roi Lion la semaine dernière et les sorties prévues de Star Wars 9 et de La Reine des Neiges cet automne laissent penser que ce rapport va significativement augmenter. En France, Disney comptabilise près d'un quart des entrées en salle, tout film confondu. La liste des records est longue et fait tourner la tête.
Disney et ses amis qui sont sur un petit nuage.
Oui, petit nuage et ses studios sont cannibales. Pixar, Disney. Star Wars, Disney. Marvel, Disney encore. Depuis l'achat pour 73 milliards de dollars du studio hollywoodien 20th Fox Century en avril, on peut ajouter à son empire la chaîne de documentaires National Geographic et les studios Fox qui détiennent les droits d'Avatar. La très publique compétition pour le titre de numéro 1 mondial du cinéma avec Avengers a permis de rappeler à tous le souvenir du chef-d'œuvre visuel de James Cameron sorti en 2009. Une piste de lancement avant que la compagnie ne produise elle-même une trilogie d'Avatar à partir de 2021, aux côtés de 60 autres blockbusters annoncés samedi. La firme à la souris ne fait plus concurrence qu'à elle-même. Et on peut se souvenir du slogan historique de Walt Disney qui était « Là où la magie vit, where the magic lives ». Il pourrait être aujourd'hui « Choisissez ce qui vous plaît, ce sera toujours un Disney ».
Autre actualité de ce journal, Matteo Carantin, c'est la clôture ce soir du Festival In d'Avignon.
Baissé de rideau ce soir en Avignon, critiqué pour sa programmation trop centrée sur les enjeux politiques et sociaux et pas assez sur les enjeux artistiques du théâtre contemporain, le festival dirigé par Olivier Py a encore une fois confirmé l'appétit français pour le théâtre avec des salles combles. Ce soir, la cour d'honneur saluera le public en musique. Arnaud Robotini et le Don Van Club vont interpréter la bande originale de 120 battements par minute, accompagnée des images du film de Robin Campillo, sorti en 2017. À noter également que Grandma, les trombones de la Havane, se jouera au cloître des Carmes. Empreinte de réalité documentaire et mise en scène par Stéphane Caegi, la pièce revient avec 4 petits-enfants de la révolution cubaine sur le parcours intime et politique de l'île ces 60 dernières années.
En bref, une nomination importante au Palais de Tokyo.
L'information a fuité hier. Emma Lavigne, directrice actuelle du Centre Pompidou Metz, devrait être confirmée demain au Conseil des ministres à la tête du Palais de Tokyo. Un bol d'air frais pour le plus grand musée d'art contemporain qui naviguait sans direction depuis le départ de Jean Loisy pour l'École nationale des beaux-arts.
Pour clore ce journal, Matteo, comme tous les jours de la semaine, vous nous emmenez sur la route des festivals et nous prenons de la hauteur à l'Académie Festival des Arcs.
Les mélodies savoureuses de la musique de chambre trouvent leur écho dans les Alpes depuis l'ouverture du festival entièrement gratuit. Cette année, en plus d'un hommage rendu aux Schumann et à Brahms et de la présence du jeune compositeur en résidence Benjamin Altaïr qui présente 2 créations mondiales, le directeur artistique du festival et violoniste Eric Kramb a voulu explorer la musique hongroise. On l'écoute.
Il y a 3 ans, avec mon orchestre à Séville, j'ai découvert une symphonie de Dohnányi. Alors Dohnányi n'est pas très connu, c'était tellement merveilleux que ça m'a donné envie de me plonger dans ce répertoire. Et j'ai découvert une multitude de compositeurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors évidemment, quand on pense à la musique hongroise, on pense à Liszt, on pense à Bartok, Kodály, ceux qui connaissent un peu plus connaissent Ligeti ou Courtag pour le XXe siècle, mais j'ai découvert des romantiques extraordinaires, Leo Reiner, Goldmark, des gens comme Rosa qui ont écrit de la musique sublime, qui est très étonnant, c'est le rapport avec la musique populaire de la musique hongroise. Bartók, lui, en est vraiment l'illustrateur parfait, c'est-à-dire que on sait que Bartók et Kodály se sont promenés dans les campagnes avec des magnétophones et ont enregistré tous les chants populaires, et ça se sent dans la musique, et dans toute la musique hongroise, que ça soit avant ou après eux. Il y a une multitude, peut-être une vingtaine de compositeurs comme ça en hongrois, injustement méconnus, et c'est un des grands privilèges qu'on a ici aux Arts, c'est de pouvoir justement faire partager ces découvertes avec notre public.
L'Académie Festival des Arts, donc, c'est jusqu'au 2 août, c'est bien ça ?
Absolument.
Merci Matteo Caranta pour ce journal de la culture, à retrouver sur franceculture.fr.